Décontaminez votre cerveau et transformez brillamment votre perception de la réalité. Dans cette première partie, vous allez devoir passer par un sas de décontamination mentale. Si notre bonheur est caché profondément au cœur de notre cerveau, c'est bien parce que notre cerveau est sacrément pollué par des biais cognitifs, des mécanismes automatisés, des peurs, des espoirs, des croyances, etc. Toutes ces composantes sont comme des filtres sur la réalité et ne permettent pas de raisonner objectivement. Elles donnent la mauvaise habitude à l'esprit de confondre réalité et interprétation orientée. C'est la différence entre la réalité objective, il pleut. La réalité objective d'un point de vue subjectif, il pleut, je suis mouillé. La réalité fantasmée par le cerveau, il pleut, j'ai vraiment la poisse, c'est toujours comme ça. Une même situation est déclinée en une interprétation irraisonnée. Le mental a besoin d'exister, et pour y arriver, il décide de penser en votre absence, de tirer des conclusions en utilisant ce qu'il croit être votre vérité profonde, et de vous les servir comme s'il s'agissait d'une pensée et que vous aviez réfléchi par vous-même. Les principes que vous allez découvrir maintenant constituent les fondations de ma philosophie de la réussite, de ma conception de la flexibilité mentale et de la sérénité émotionnelle. Prenez le temps de vous en imprégner. Je vous recommande une deuxième écoute de cette partie peu de temps après avoir écouté ce livre audio. La connaissance globale que vous aurez acquise fera résonner ces concepts encore différemment la seconde fois. Comme la symbolique du yin et du yang, la réussite et l'échec sont indissociables et complètement intriquées l'une dans l'autre. Dans notre cerveau, ils sont associés à des émotions réflexes que nous avons associées à ces mots-concepts. Vous ne l'avez pas fait directement, consciemment, c'est votre entourage et la société qui vous ont appris ces concepts, expliquant que l'échec était une mauvaise chose et que la réussite était une bonne chose. La réalité objective est pourtant plus simple. Vous allez la découvrir. L'homme est fait pour échouer. Voici une réalité. Triste? Absolument pas. Réaliste? Sans aucun doute. Vous devez être fier d'avoir fait plus d'erreurs que les autres, car vous en savez plus. Morgan Freeman. L'homme est un mammifère très particulier. Il est le seul à naître non terminé. Nous naissons au bout de 9 mois de gestation, car il n'y a pas assez de place disponible dans un corps humain pour que le bébé puisse se développer complètement in utero. Nous allons donc dire bonjour au monde dans un processus de développement. Durant les 2 premières années, le stade de nourrisson, l'enfant termine de se réaliser physiquement. En parallèle, il va commencer à apprendre. Voici pourquoi l'être humain est le seul animal sur Terre à pouvoir échouer. Parce qu'il a la compétence innée d'apprendre toute sa vie. Les animaux naissent avec un instinct qui contient bien souvent tout ce qu'ils ont à savoir pour vivre, ou quasiment. La tortue va directement vers la mer. Le panda sait exactement ce qu'il doit manger. La baleine sait comment communiquer avec ses congénères. Le renard sait comment il doit chasser. Le lapin sait comment faire son terrier, etc. En parallèle, l'être humain naît également avec ses instincts primaires, que l'on peut assimiler à des pulsions. Il va devoir en accepter certaines et en refuser d'autres. Son premier apprentissage va donc être de s'affranchir de ses instincts. Il peut les observer, les nommer et décider de les suivre dans certains cas ou de les refouler dans d'autres. C'est une aptitude unique dans la nature. Comme tous les animaux, il naît aussi avec des besoins primaires: nourriture, confort et sécurité. Une fois que ces besoins sont comblés, l'être humain possède la capacité incroyable de se créer de nouveaux besoins, encore et encore. C'est ainsi que notre espèce a évolué, a inventé, a révolutionné son existence et son monde. Il faut dès lors comprendre que c'est ce magnifique cadeau de l'évolution, notre capacité à apprendre, qui a créé la notion de réussite et d'échec. Un poisson ne rate pas sa vie de poisson. Un chat ne peut pas rater le fait d'être chat. Il n'y a que l'humain qui considère pouvoir rater sa vie, ou dans une moindre mesure, sa journée. parce qu'il est le seul à pouvoir essayer d'évoluer dans la direction de son choix. Il peut choisir d'essayer de vivre n'importe quelle expérience qui n'était pas nécessaire à sa vie, au sens philosophique, qui ne peut pas ne pas être. Percevez ces pouvoirs que nous avons tous. Pouvoir d'imaginer, pouvoir de désirer, pouvoir d'essayer, pouvoir d'apprendre, pouvoir de comprendre. Notre cerveau collectif a décidé d'occulter ces 5 pouvoirs primordiaux pour en inventer 2 faux. Le pouvoir d'échouer et le pouvoir de réussir. L'échec fait simplement partie intégrante du processus d'apprentissage. Vous ne pouvez pas avoir le fantasme d'apprendre sans admettre qu'il faudra peut-être plusieurs essais, plusieurs réglages. Vous devez mettre votre ego et vos émotions de côté comme vous le faisiez avant. Avant ? Bien sûr. Lorsque vous étiez enfant, vous n'avez fait que ça. Avez-vous marché du premier coup lorsque, pour la première fois, vous vous êtes tenu debout sur vos jambes ? Avez-vous nagé la première fois que vous êtes allé dans l'eau ? Avez-vous écrit vos premiers mots une fois que l'on vous a récité l'alphabet ? Le lassage des lacets s'est-il fait en quelques secondes quand on vous l'a montré ? Je pourrais vous écrire un livre complet d'exemples de tentatives qui ont été menées à bien après plus ou moins de temps, où vous ne vous jugiez pas parce qu'il vous avait fallu plusieurs essais. Vous devez simplement retrouver cet état d'innocence émotionnelle. Celui où il vous semblait évident de devoir essayer avant de comprendre mentalement et physiquement comment réaliser ce que vous vouliez. Vous êtes humain, vous possédez le don de l'apprentissage. Ne le gâchez pas à cause d'un regard incorrect sur le résultat de vos tentatives. La dernière tentative sera toujours la bonne, nécessairement. L'échec, un accélérateur de réussite. Il existe un plombier marié à une princesse ayant une fâcheuse tendance à se faire kidnapper. Ce héros du jeu éponyme Mario Bros offre une belle perspective d'échec à répétition. Que vous soyez joueur aguerri ou débutant, il est impossible de terminer les niveaux sans échouer, tant ils sont remplis de pièges et de bonus cachés. Le seul moyen de finir ce jeu est de perdre, encore et encore, pour comprendre les subtilités du niveau et finir vainqueur dans le dernier château. J'aime prendre cet exemple car il est vertueux. Si je voulais faire ce niveau lentement, en essayant d'identifier toutes les étapes au fur et à mesure, il y a fort à parier que je perdrais au mieux par la limite de temps et au pire par l'un des pièges que j'essaierai d'anticiper. La meilleure stratégie est donc d'avancer à vitesse normale et d'apprendre au plus vite de ses erreurs. Laissez-moi transposer ce jeu à l'un des épisodes de ma vie. Il vous permettra de projeter cette théorie dans le monde réel. Les essais sont les plus belles réussites. J'ai joué mon premier spectacle à Paris en 2010 pour 3 représentations à la Folie Théâtre, dans le 11e arrondissement. Si vous lisez ma biographie en ligne, vous pourriez penser que c'est faux, car elle indique que j'ai commencé en 2011 à la Comédie des Trois Bornes. Alors que s'est-il vraiment passé ? Nous sommes en 2010. Je partage mon temps entre mon logement à Hénande, un village près de ma ville natale, La Rochelle, mes prestations à l'étranger et une vie parisienne succincte qui n'existe que dans le but de me rapprocher de celle qui partage ma vie et qui travaille dans la capitale. Le problème est que je n'ai rien de spécial à faire à Paris lorsque j'y suis et que ma compagne travaille. Mais après une courte recherche, je découvre un théâtre non loin de notre logement vers la place Voltaire, la Folie Théâtre. Je pourrais même y aller à pied. Une petite salle de 49 places en gradin avec un confortable plateau de jeu de 5 mètres sur 4. Je contacte la salle qui, hasard de la vie, accepte de me programmer pour quelques représentations. Je suis ravi et je me demande comment préparer au mieux ces quelques dates. Je n'ai pas de producteur et je dois donc réaliser ce qu'on appelle une autoproduction. Charge à moi de créer une affiche, un visuel, une description du spectacle, d'imprimer affiches et tracts, de faire le contrat, de gérer la communication, etc. J'utilise de vieilles photos que j'ai en stock et je compose moi-même une affiche sur je ne sais quel logiciel gratuit que je trouve en ligne. Le résultat est médiocre, mais ça, je n'ai pas encore assez de recul pour le savoir. C'est du fait maison et j'en suis satisfait. Je me mets alors en quête d'un imprimeur pour réaliser une centaine d'affiches et quelques centaines de tracts. Une semaine après, je reçois le tout chez moi et je me demande quoi en faire. Coller des affiches dans une ville peut paraître simple, mais c'est un métier à part entière. Il faut connaître les emplacements, trouver un espace, savoir parler aux commerçants pour avoir l'autorisation de coller une affiche dans leur vitrine, alors qu'ils sont ultra sollicités chaque jour pour cette même raison. Bref, il me faut quasiment 15 minutes pour réussir à poser une seule affiche, sans être toujours certain de la visibilité de celle-ci. En parallèle, je décide d'aller place de la Bastille, à la sortie du métro, pour y distribuer mes tracts. C'est là que je fais une grande découverte. Les passants ne sont pas du tout intéressés par moi. Ou alors, je viens de développer un nouveau super-pouvoir durant mon sommeil. Je deviens invisible à partir du moment où je tends un tract de mon spectacle à quelqu'un. Mais pour être honnête, je n'ai pas de meilleure idée et je continue pendant quelques heures avec un résultat plus que mitigé, qu'on pourrait appeler un échec. Je tente également ma chance sur les terrasses de café, en me disant qu'ici, les gens ne pourront pas m'ignorer, mais les résultats ne sont pas plus glorieux. Au mieux, ils pensent que je passe prendre leurs commandes et je dois leur expliquer que je ne suis pas le serveur. Au pire, ils prennent le tract sans me regarder et le posent sur la table en attendant que le serveur le jette plus tard. Quelques semaines passent et je suis aux portes du théâtre pour effectuer la première de mes trois représentations. J'entre sur scène et face à moi, j'aperçois trois personnes, dont ma compagne, accompagnée de sa meilleure amie. Mon redoutable plan de communication basé sur des affiches et des tracts en sortie de métro n'a clairement pas eu l'effet escompté. Ou bien, il y a eu un couvre-feu imposé dont je n'ai pas eu connaissance. Ou une inondation. Des manifestations. Je reste un peu sidéré, car j'ai conscience à ce moment précis que les taxis qui passent actuellement devant le théâtre ont parfois plus de personnes dans leur voiture que moi dans ma salle. J'ai néanmoins assuré mon spectacle d'une heure ce jour-là, ainsi que les autres dates, avec un public équivalent. Certains de mes numéros nécessitent d'avoir deux personnes sur scène avec moi. Il y avait donc parfois moins de spectateurs en salle que sur les planches. Difficile de compter sur le bouche à oreille dans ces conditions. Le partage des recettes à l'issue de cette programmation n'a évidemment pas couvert les frais que j'avais engagés dans la communication et le matériel du show. Le spectacle n'était pas terrible, le public absent, les éléments de communication inefficaces. Tous les ingrédients de l'échec étaient à point pour être dégustés. C'est en rentrant chez moi à pied, à l'issue de la dernière représentation, avec un découvert tellement gros qu'il aurait pu percer le fond de mes poches, que j'ai regardé cet échec en face, en me demandant comment le gérer. Il fallait que je commence par mettre mon ego de côté et la seule solution était de me décentrer. Tout en marchant, je me suis mis à m'imaginer comme étant un grand producteur de spectacles, un jeu de rôle en quelque sorte. Je venais de produire le spectacle d'un certain Fabien Olicard. Que s'était-il passé? Je me suis alors souvenu de ce que l'on appelle la démarche scientifique. Elle repose sur une véritable science de l'erreur. Les erreurs sont nécessaires et acceptables pour atteindre un but, comme dans Mario Bros. Ce que j'appelais mon échec n'était donc qu'une accumulation d'erreurs représentant une étape dans le développement d'un spectacle au théâtre. En endossant mentalement le rôle du producteur, j'ai pu regarder franchement ce qu'il s'était passé. Le spectacle n'était pas terrible. L'artiste manquait cruellement d'expérience. Les visuels faisaient preuve d'amateurisme et de mauvais goût. Les moyens pour communiquer n'avaient pas porté leurs fruits. Zoom. Avec la même honnêteté, j'ai regardé pourquoi toute l'énergie que j'avais dépensée n'avait pas obtenu de résultats satisfaisants. Par exemple, tracter des prospectus à la sortie d'un métro ou dans la ville. J'ai voulu interrompre des passants dans un trajet. Un trajet a toujours du sens, un but, un temps. Ces personnes n'étaient pas en train de flâner au milieu de leur journée, mais au mieux, elles rentraient chez elles et au pire, elles couraient après le temps. Elles n'étaient pas disponibles. Quelqu'un qui rentre ou sort d'un transport va forcément d'un point A à un point B et n'a pas envie d'être sollicité entre les deux. Il m'a fallu l'essayer pour le comprendre. Autre exemple. Tracter des prospectus sur les terrasses de bar. Je les avais déposés à tout le monde avec la stratégie de « plus j'en distribuerai, plus j'aurai une chance que quelqu'un vienne au spectacle ». Mais avait-il la moindre idée de ce qu'était mon spectacle, mon métier, de ce que je proposais vraiment? Savait-il que le théâtre était à moins de 5 minutes à pied du bar? Avais-je essayé d'entamer la conversation? Rien de tout ça, évidemment. Il vaut mieux réussir à distribuer 100 tracts et que 5 personnes viennent, plutôt que 2000 et que 10 personnes se présentent. C'est d'ailleurs quasiment ce qu'il s'est passé. Dernier exemple, les affiches que j'avais pu déposer. 20 au maximum. Elles avaient été collées à des endroits où ma seule stratégie était « si je peux en poser une, je le fais ». Je suis allé jusqu'à en mettre dans les laveries et sur des cabines téléphoniques pour ne pas rentrer avec le stock que j'avais pris. Pourtant petit. J'ai continué cette liste et je suis arrivé chez moi avec le sourire aux lèvres. J'avais repositionné mon état émotionnel en me décentrant du sujet et surtout, je venais de comprendre que cette étape n'était qu'un début. Un début ne peut pas être considéré comme un échec, mais simplement comme la première marche d'une réussite future. En assouplissant son jugement, mon cerveau venait de redevenir objectif sur la situation. 1000 idées étaient en train de naître dans mon esprit pour renouveler l'expérience un jour avec une salle pleine, un spectacle prêt, un artiste plus aguerri. Durant 1 an à compter de ce jour, j'ai écumé les scènes ouvertes, les cabarets et toutes les occasions où je pouvais jouer afin de tester des numéros pour mon spectacle. J'y ai vécu des ovations, des bides, des moments de doute, des moments de grâce. J'ai désacralisé le fait de monter sur scène pour le voir comme un test en laboratoire où, à chaque occasion, je testais mon vaccin pour l'améliorer. Le spectacle devenait meilleur. L'artiste commençait à avoir plus d'expérience. Le dernier déclic s'est produit en passant devant une parfumerie populaire où l'on m'a offert un échantillon. Une semaine après, j'achetais un parfum de cette marque. Si je voulais remplir un jour une salle, il fallait que je trouve un moyen d'offrir des échantillons de mon spectacle au public potentiel. Mieux ! On m'avait donné ce parfum parce que j'étais un homme de 28 ans, la cible de ce parfum. Il faudrait donc que je comprenne qui était la cible de mon spectacle pour leur offrir, à eux, un échantillon. J'ai référencé les plateaux d'artistes où le public avait entre 20 et 40 ans, ma cible, pour y jouer des extraits de 10 minutes de mon spectacle. À la fin de mon passage, je faisais la promotion de mes futures représentations. Les soirs où je ne jouais pas, j'allais distribuer des tracts à la sortie des spectacles dont la thématique était connexe au mien. Quant au visuel, j'avais économisé pour me payer les services d'un graphiste très créatif, qui travaille encore avec moi sur tous mes spectacles. C'est ainsi qu'en 2011, j'ai vraiment commencé, pour une période de 3 mois, un spectacle à la Comédie des Trois Bornes. Un théâtre de 49 places également. Finalement, j'y ai joué chaque semaine durant 2 ans, avec une salle quasiment toujours pleine et de belles critiques. Un succès ? Non plus. Il y a une certaine facilité aussi à vivre la situation sans y poser de regard objectivement critique. Il y avait encore beaucoup de potentiel d'amélioration dans l'artistique, la production et la communication. Une simple nouvelle étape donc. Les échecs et les succès ne sont que des vues de l'esprit. Des positionnements émotionnels, des étiquettes que l'on aime coller à des situations pour les ranger dans des cases. Dire de quelque chose que c'est un succès ou un échec, c'est avant tout clore un dossier qui devrait rester ouvert. C'est affirmer que l'on est arrivé à destination alors que nous sommes en route. Si j'ai pu lancer mon spectacle dans les théâtres et les festivals, c'est uniquement grâce à cette expérience de 2010 riche en enseignements. Si je ne l'avais pas vécu et que je m'étais directement lancé pour 3 mois dans un théâtre d'humour comme la Comédie des Trois Bornes, je n'aurais pas vécu les années qui ont suivi et durant lesquelles se sont enchaînées le théâtre du Point-Virgule, le théâtre de la Tour Eiffel, la scène musicale, l'Olympia et enfin le Zénith de Paris. Je chéris encore ces 3 dates où, en rentrant sur scène, je me suis dit « Il n'y a qu'une personne que je ne connais pas, elle va devoir participer à tous mes numéros pendant 1 heure ». Les Américains appellent cela le « fail fast », soit littéralement le « rate vite » ou « échoue rapidement ». Il faut déjà recadrer votre cerveau en lui apprenant ce qu'il savait quand vous étiez tout petit. Un raté n'est pas un échec. Comme je vous l'ai dit, un échec ne sous-entend pas que l'histoire est terminée, que le mot « fin » vient d'être écrit à l'encre indélébile. Les ratés sont nécessaires pour apprendre, pour comprendre. Vous ne saurez jamais jouer d'un instrument de musique sans massacrer quelques morceaux avant et sans accepter de vous entraîner de longues heures durant. Considérez-vous cette étape comme un échec. Ce qui paraît naturel dans un domaine comme la musique devient moins évident quand l'ego vient s'en mêler. Voici donc quelques règles d'or à suivre pour apprendre plus vite que les autres. Décentrez votre ego en observant la situation d'un regard extérieur. Vous n'êtes pas la situation que vous observez. Vous n'en avez été que l'acteur. Soyez honnête dans votre jugement. Soyez-le dans les côtés négatifs, mais aussi dans les côtés positifs. Commencez à repérer et lister ce qui aurait pu être modifié. Trouvez des alternatives pour modifier ces points lors de votre prochain essai. Et enfin, l'étape la plus importante, réessayez dès que possible. Voici une clé. Vous êtes imparfait. Et c'est grâce à cela que vous allez pouvoir rapidement apprendre et affiner ce que vous entreprenez dans votre vie personnelle et professionnelle.